Vous écoutez Radio France Internationale, 4 heures ici à Paris, 3 heures en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, après 3 ans de guerre, l'Ukraine connaîtra-t-elle enfin une accalmie ? Kiev a accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu. Après plusieurs semaines de tensions avec les États-Unis, comment lire ce nouveau rapprochement avec Washington ? Analyse dans ce journal. C'est une décision juridique qui divise en Roumanie. Le candidat d'extrême droite Calin Gheorghescu ne pourra pas se présenter aux élections. Il avait terminé en tête du scrutin de novembre, annulé pour soupçon d'ingérence russe. Au Portugal, le gouvernement est renversé par le Parlement. En toile de fond, une controverse sur les possibles conflits d'intérêts du Premier ministre Luis Montenegro. En Serbie, des protestataires bloquent les locaux de la télévision publique qu'ils accusent d'être à la solde du gouvernement. Et la mobilisation du monde universitaire en France contre les coupes et les politiques d'austérité. Les discussions entre Américains et Ukrainiens auront porté fruit en Arabie Saoudite mardi. Kiev a accepté la proposition américaine pour un cessez-le-feu de 30 jours. De son côté, Washington va débloquer immédiatement l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'armée ukrainienne. Enfin, l'entente sur l'exploitation des minerais ukrainiens est de nouveau sur la table, suspendue depuis la visite catastrophique de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Comment expliquer un tel bilan alors que les relations des deux pays étaient au plus mal? Élément de réponse avec Ulrich Bouna, spécialiste de l'Ukraine.
En fait, je m'attendais probablement à ce qu'effectivement les Ukrainiens s'engagent à signer l'accord sur les minerais et qu'en contrepartie, les Américains s'engagent, eux, de leur côté, à rétablir le renseignement et l'aide militaire. C'était le meilleur scénario auquel je m'attendais. Là où je suis un petit peu plus, on va dire, étonné, c'est qu'effectivement, c'est cette proposition de cessez-le-feu de 30 jours. On sait que les Ukrainiens étaient arrivés avec une proposition de cessez-le-feu de 30 jours calquée sur celle proposée par le président Macron, à savoir donc un cessez-le-feu maritime et aérien. Et là, pour le coup, il semblerait que les Américains aient rajouté une composante finalement terrestre, donc un cessez-le-feu total, sur lequel finalement les Ukrainiens se sont alignés, mais je dirais avec raison et de façon relativement logique, puisque ça permet déjà d'une part donc effectivement d'acter que les Ukrainiens se rapprochent des Américains d'une part, et d'autre part ça permet aussi de renvoyer la balle à Moscou, puisque c'est désormais à Moscou de dire si oui ou non il accepte un cessez-le-feu. Et donc là finalement, je veux dire que Vladimir Poutine se retrouve un petit peu face à ses propres déclaration où il a toujours dit que c'était les Ukrainiens qui refusaient de faire la paix.
L'analyse d'Ulrich Bouna, spécialiste de la question ukrainienne. Et avec l'accélération des négociations de paix, la question de l'après-guerre est sur toutes les lèvres en Europe. Devant un parterre de chefs d'état-major, le président français a lancé la planification des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il faut passer du concept au plan, a martelé Emmanuel Macron. Les représentants militaires de 34 pays étaient réunis à Paris mardi, principalement les membres de l'Union européenne, mais aussi des pays alliés comme le Canada, le Japon ou encore l'Australie. Objectif, assurer des garanties solides à l'Ukraine et aux autres pays européens, sans devoir compter sur le grand frère américain. Lui est soupçonné d'avoir été aidé illégalement par Moscou. Calin Gheorghescu, candidat d'extrême droite à la présidentielle roumaine, est officiellement exclu du scrutin. La Cour constitutionnelle a rejeté l'appel de cet ancien haut fonctionnaire aux accents trumpistes. Il rassemblait pourtant près de 40% des intentions de vote. Les précisions d'Arim Lipold.
Aujourd'hui, les maîtres ont décidé pas d'égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. C'est ainsi que Calin Ceaușescu a réagi à la décision de la Cour constitutionnelle, dernier épisode d'un feuilleton riche en rebondissements. L'ancien haut fonctionnaire de 62 ans avait créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle en novembre dernier. Mais la justice a annulé le scrutin, évoquant des irrégularités, notamment des soupçons d'ingérence russe. Une décision rarissime au sein de l'Union européenne qui a plongé la Roumanie dans le chaos. Un nouveau scrutin est prévu en mai prochain, mais la commission électorale a refusé la candidature de Calin Ceaușescu. Son appel a été rejeté hier par la Cour constitutionnelle au grand dam de ses nombreux sympathisants. Les sondages lui accordaient environ 40% des intentions de vote. Il bénéficie aussi du soutien d'Elon Musk et du vice-président américain J.D. Vance. La question est maintenant de savoir, va-t-il adouber l'autre figure de l'extrême droite roumaine George Simion ou bien appelé au boycott du scrutin? Une chose est sûre, le feuilleton Ceaușescu est loin d'être terminé.
Au Portugal, le Parlement a renversé le gouvernement à l'issue d'un vote de confiance. Empêtré dans une polémique de possibles conflits d'intérêts, le Premier ministre de droite modérée, Luis Montenegro, va donc démissionner après à peine un an au pouvoir. Au cœur de la controverse, une compagnie de prestations de services dirigée par sa femme et ses enfants. L'entreprise a notamment signé des contrats avec un groupe dont l'activité est soumise à des concessions accordées par l'État. Ce vote de non-confiance ouvre la voie à des élections anticipées, les troisièmes depuis 2022. En Serbie, plusieurs centaines d'étudiants et de protestataires ont bloqué les bureaux de la RTS, la télévision publique. Ils reprochent aux médias une couverture biaisée des manifestations populaires et de ne présenter que la version officielle du pouvoir. Depuis 4 mois, un mouvement massif de protestations anticorruption secoue la Serbie et divise la population. La correspondance à Belgrade de Laurent Rouy.
C'est parce qu'une journaliste a employé le mot « horde » pour désigner des manifestants pacifiques que les étudiants ont décidé du blocage de la télévision publique. Dušan, travailleur indépendant, est venu les soutenir dès lundi soir. Pour lui, la télévision publique n'est pas impartiale.
Le problème, c'est que nous, les citoyens, finançons cette chaîne, mais elle travaille seulement dans l'intérêt d'un tout petit groupe de gens, et ça fait plus de 30 ans que ça dure.
Les manifestants sont rejoints par une dizaine d'employés de la télévision en désaccord avec la couverture très orientée de la chaîne. Une employée prend la parole sous les applaudissements.
Nous sommes des employés de la RTS et nous sommes venus ici pour défendre l'honneur et la réputation de notre télévision et de notre profession. Nous lançons un appel à tous nos collègues à nous rejoindre ici et qu'ils sortent du bâtiment de la télévision honorablement.
Ivona, étudiante de philologie, a passé toute la journée devant les bureaux de Belgrade, mais le blocage dépasse la capitale.
Les étudiants ont décidé de bloquer la RTS car cette chaîne ne rend pas compte correctement de ce qui se passe. Les étudiants bloquent aussi les bureaux locaux à Novi Sad et Kragujevac.
Le président Aleksandar Vučić et ses alliés ont décidé de présenter les manifestants comme un groupe violent. Le bras de fer entre le pouvoir et les manifestants continue. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
En Australie, le Premier ministre a fait une sortie pour dénoncer les nouveaux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Washington veut imposer des droits de douane de 25% dès ce mercredi. Une décision totalement injustifiée, s'est indigné le Premier ministre Anthony Albanese. Selon lui, la méthode américaine est une forme d'automutilation économique. Des tarifs sur l'acier et l'aluminium canadiens doivent aussi entrer en vigueur mercredi. Donald Trump a menacé de les doubler. Les porter à 50% si le Canada mettait en œuvre une riposte sur ses exportations d'électricité. À l'appel d'une large intersyndicale, plusieurs centaines d'enseignants et d'étudiants ont manifesté ce mardi à Paris, à la place de la Sorbonne. Ils tenaient à dénoncer l'austérité et les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. Pour Camille François, un professeur de sociologie à Paris 8, la situation est grave.
On est là pour lutter contre les coupes budgétaires drastiques qui frappent l'université et la recherche publique. Je vous donne un exemple, moi, le laboratoire auquel je suis rattaché va voir son budget diminué de 55%. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont empêchés. Et puis ce qui nous pend au nez, c'est des réductions dans l'offre d'enseignement, donc avoir moins de cours, des enseignants qui sont de plus en plus en situation de précarité juridique, qui n'ont pas de vrai contrat, mais aussi une menace qui pèse sur les étudiants, avec une éventuelle augmentation des frais d'inscription. Pour donner le contexte général, c'est l'État qui met en faillite les universités, en fait, en refusant, pour des choix budgétaires politiques, de leur donner les moyens de fonctionner, donc d'accueillir les étudiantes et étudiants, de les former dans des bonnes conditions, mais aussi les personnels de l'université, de connaître en fait des conditions de travail dignes. Et donc c'est contre tous ces fléaux aujourd'hui qu'on manifeste.
Le professeur de sociologie Camille François au micro de Laurence Théo a noté que plusieurs assemblées générales se tiendront dans des facs un peu partout en France ce jeudi 13 mars. Au programme, la suite de la mobilisation. 4h, presque 10 ici à Paris. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour plus d'actualités internationales, vous pouvez consulter le www.rfi.fr ou consulter notre application mobile Pure Radio.